Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h42, qu'est-ce qui fait parler ce matin la revue de presse avec Félix Mathieu?
Oui, Félix, alors on jette un coup d'œil donc aux journaux du jour. Beaucoup autour de Biden, au chevet d'une Amérique sidérée, nous disent par exemple les Échos.
Oui, hein. Sidérée après cette invasion du Congrès par les ultra-pro-Trump, invasion qui a beaucoup choqué les Américains. Joe Biden a finalement bien été confirmé comme 46e président des États-Unis. De son côté, le parti républicain est menacé d'implosion, car de nombreux élus se désolidarisent du président Trump, qui fait désormais face à des risques judiciaires, nous disent les Échos, pour avoir appelé à marcher sur le Capitole, même s'il a depuis condamné ses exactions. Joe Biden sur un volcan pour le Figaro, avec la photo d'un de ses émeutiers qui brandit un portrait du président Trump incrusté sur un drapeau des États-Unis. Le nouveau président Biden prendra le 20 janvier les commandes d'une nation déchirée par les excès du Trumpisme, écrit le Figaro. Et puis, Very Bad Trip, ça c'est la manchette de Libération, avec la photo d'un panneau Trump 2020 tombé à l'eau. Et en arrière-plan, la silhouette du Capitole comme plongée dans le crépuscule. À propos du laps de temps qui nous sépare du 20 janvier, Libération parle des 13 jours les plus longs. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici là? Eh bien, de part et d'autre de l'échiquier politique américain monte une petite musique. Utiliser le 25e amendement qui permettrait d'écarter du pouvoir un président s'il est jugé inapte à exercer ses fonctions. Certains envisagent outre-Atlantique d'écourter la fin de la présidence Trump pour motif de sédition.
Oui, en attendant, il a été banni et censuré par les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Est-ce que c'est bien normal? On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Philippe Bilger, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, de là aller jusque-là, mais c'est parce qu'il y aurait une menace pour la démocratie, ce que dit Mark Zuckerberg. On va voir ça, en tout cas, avec Philippe tout à l'heure. L'autre grand sujet à la une des journaux ce matin, Félix, c'est la crise sanitaire et son lot de restrictions. Hein. Castex qui joue les prolongations, titre Sud-Ouest.
Oui, établissements culturels, sportifs et stations de ski resteront fermés jusqu'à la fin du mois. Restaurants et bars ne rouvriront pas avant la mi-février. L'exécutif entend accentuer ses efforts en matière de vaccination. Les plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès le lundi 18 janvier. Soit dans 10 jours. Notre région sous la menace, d'ailleurs, titre La Provence. Le chef du gouvernement, hier, a aussi proposé l'extension du couvre-feu dès 18h à 10 nouveaux départements. Les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, notamment, sont dans le viseur.
Oui, et puis l'indépendant catalan qui évoque la double peine des professionnels de la montagne aussi. On va terminer là-dessus.
Oui, ils ne peuvent pas anticiper une ouverture ou non des remontées mécaniques, ce qui paralyse les réservations tout en les obligeant, au cas où, à entretenir le manteau neigeux. Jean Castex, écrit l'Indépendant, n'a pas éclairci le ciel de ces professionnels de la montagne.
Merci à vous, Félix. Mathieu, on va poursuivre notre revue de presse avec Régis Le Chaumier, le directeur adjoint de Paris Match. Bonjour Régis.
Bonjour Patrick.
Régis, alors il y a d'abord cette une de Match, vous allez nous en parler, de Kamala Harris, hein, la femme la plus puissante à venir sans doute du monde. Vous l'avez rencontrée, il y a un long reportage, mais avant cela quand même, Match est en deuil avec l'adieu à Olivier Royan qui a dirigé donc pendant des années Paris Match, qui était un honnête homme, courageux, attentif aux autres, un vrai journaliste ardent, engagé. Vous avez travaillé à ses côtés pendant de nombreuses années, Régis.
Oui, j'ai travaillé pendant 20 ans aux côtés d'Olivier Royan. Donc, évidemment, moi et toute la rédaction, c'est une perte immense. Ouais. Nous lui rendrons d'ailleurs un hommage. Ses obsèques ont lieu aujourd'hui, justement, à Paris, en église Sainte-Clotilde, cet après-midi. Oui, c'est 20 ans de ma vie. C'est quelqu'un qui a contribué personnellement à faire qui je suis aujourd'hui. C'est des centaines de reportages, des centaines de bouclages aussi de ce numéro et de ce magazine qui nous est cher à tous. Ouais. Voilà, c'est vraiment une page qui se tourne et quelqu'un, vous le soulignez, qui avait une honnêteté, une probité effectivement énorme, une gentillesse aussi, puisque tous s'en rappellent comme quelqu'un qui a toujours accueilli les gens.
Et très bienveillant.
Bienveillant et surtout avec ce sens, ce souci du journalisme. Vous évoquiez l'Amérique. Je pense qu'il aurait été consterné de voir ce qui s'est passé au Congrès, parce que l'Amérique, c'était quelque chose qui était chevillé au corps. Il a été correspondant pendant 11 ans à New York et a sillonné, a rencontré les chefs d'État, etc. Moi-même, je l'ai été, donc nous partageons cette passion commune pour l'Amérique, les élections américaines. Nous, on ne dormait pas les soirs de l'élection américaine avec le décalage horaire pour suivre l'évolution des scores et connaître le nouveau président. C'est quelque chose qui nous a absolument passionnés, que nous avons partagé tous les deux pendant de nombreuses années.
Ouais, et il y a une photo d'ailleurs qui est frappante. Hein. Il y en a beaucoup, et où on le voit au travail, au bureau, etc., passant des heures aussi devant les futures unes de match, choisissant au dernier moment. Et une autre photo, puisque vous parlez d'Amérique, avec Donald Trump, hein, qu'il a bien connu, etc.
Tout à fait. Olivier a connu la période en fait de Donald Trump, du milliardaire, c'est-à-dire les années 90, la période d'Atlantic City, la période où il construisait des immeubles un peu partout et mettait sa marque un peu partout dans New York et dans beaucoup de villes aux États-Unis. Et oui, il a vraiment été proche de Trump à cette époque. Il est allé plusieurs fois à Mar-a-Lago faire des reportages, vous savez, dans cette résidence floridienne de Trump, où il a son golf. Voilà, donc c'est quelqu'un qui l'a connu, avant que Trump, évidemment, devienne président des États-Unis.
Oui, c'est vrai. Alors, à propos de, justement, transition toute trouvée, vous êtes allé en reportage aux États-Unis de nombreuses fois, donc vous l'avez dit, vous avez été correspondant, Régis Le Sommier, et vous avez aussi suivi Kamala Harris, que vous dites, c'est la femme la plus puissante du monde.
Alors, ce sera la femme la plus puissante du monde, oui. Évidemment, elle succède à Joe Biden. Joe Biden est encore bien vivant, et voilà. Oui. Non, alors, je l'ai, en fait, si vous voulez, moi, c'est une enquête sur Kamala Harris.
Une enquête.
Est Kamala Harris. J'ai rencontré beaucoup de ses proches, je suis allé sur ses terres à San Francisco, à Berkeley, à l'endroit où elle est née, et où elle a grandi. Voilà, c'est une plongée dans l'univers de Kamala Harris. Il faut savoir que pour les auditeurs, qu'elle a été procureure de l'État de Californie, qu'elle a connu une carrière politique, elle a aussi été sénatrice de cet État de Californie, et voilà, et j'ai voulu aller au plus près, raconter qui elle est, parce que en effet, le hasard, parce qu'en fait elle n'a pas été élue directement, elle s'était présentée à la primaire des démocrates, elle a été battue, mais Joe Biden l'ayant choisie comme sa vice-présidente, eh bien, il est possible que dans 4 ans, ou même avant, si Joe Biden... que Kamala Harris soit la première femme à la tête des États-Unis. Voilà, en tout cas, c'est la vraie, véritable rising star, comme on dit chez les démocrates, l'étoile montante du Parti démocrate. Et voilà, et j'en ai fait toute une analyse que vous pouvez retrouver dans l'Economist du journal cette semaine.
Et
voilà.
On voit, c'est passé par des moments hauts et bas aussi pour elle. À un moment donné, elle était en conflit, par exemple, avec Hillary Clinton.
Absolument, elle a été en conflit parce qu'elle a suivi Barack Obama. Alors, très intéressant, quand on pensait à Kamala Harris, on se dit, oui, c'est Obama en féminin. Alors, c'est pas tout à fait Obama en féminin, mais évidemment leurs deux carrières sont parallèles. En 2004, elle le rencontre, ils deviennent amis, et là elle va suivre Barack Obama, alors que c'est Hillary Clinton qui tient le Parti démocrate, donc il y a beaucoup de gens qui vont lui en vouloir. Enfin bref, sa carrière n'est pas tout à fait n'est pas une montée régulière, et il y a effectivement des accidents, et il y a aussi son bilan en tant que procureur, puisque vous savez, elle a été assez intraitable. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est assez autoritaire.
Oui, beaucoup de caractère. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas
d'autorité, mais c'est peut-être ça qu'il faut pour un jour peut-être devenir président des États-Unis. Voilà.
Merci, Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match. Et évidemment, à Sud Radio, on s'associe à votre deuil pour rendre hommage donc à Olivier Royan, qui nous a quittés à la suite d'une longue maladie il y a quelques jours de ça. Merci, Régis.
Et on continue ce petit déjeuner de l'actu. Philippe Bilger, Éric Revel, vos appels comme tous les matins, 0826-300-300.
Oui, Philippe Bilger, Éric Revel, rebonjour pour Éric. Philippe,
oui.
Bonjour à vous.
Bonjour, Philippe.
Philippe, vous me disiez, avec ce qui s'est passé, c'est un peu on nous a volé notre Amérique, en quelque sorte. Hein.
Un petit peu de notre Amérique, Patrick. Évidemment, je ne surestime pas non plus la portée de ce qui s'est déroulé au Capitole, qui est le fait de quelques énergumènes chauffés à blanc par un Donald Trump qui, à l'époque, ne comprenait pas qu'il avait à calmer le jeu. Mais maintenant, il est clair qu'à cause de lui, on nous a volé un peu de notre Amérique, de ce socle démocratique dont on rêvait et dont le Capitole était l'incarnation. mais je n'ai aucune inquiétude sur le futur américain. Oui. Dans la mesure, il me semble que autant le caractère atypique, voire caractériel de Donald Trump lui a permis, durant son mandat, parfois d'accomplir des choses qu'aucun autre n'aurait osé faire, eh bien son caractère atypique peut nous rassurer sur la suite. Un Donald Trump pour le pire sera unique.
Oui.
Je n'imagine pas que demain on puisse avoir un président bien au-delà de Joe Biden, Kamala Harris et d'autres ensuite qui puissent tomber dans une telle pathologie.
Oui, alors je le disais tout à l'heure, Donald Trump a été banni de certains réseaux sociaux, hein, notamment Facebook, Instagram et Twitter aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Mark Zuckerberg dit parce qu'il y a danger pour la démocratie et pour le pays en raison d'appel. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ?
En général, Patrick, je ne suis pas évidemment favorable à quelque censure que ce soit, et je trouve que l'attitude de ces réseaux sociaux ressemble un peu à ceux qui arrivent lorsque le combat est terminé pour accabler davantage une ambulance. J'entends bien que Trump est une ambulance encore pleine de vie et capable de nuisances, mais je n'aime pas ce sentiment qu'on s'acharne à l'heure actuelle sur quelqu'un qui a perdu la partie, heureusement. Et je me demande même si cette volonté de censure ne va pas permettre une sorte d'aura délétère autour de quelqu'un dont on supprimera la parole. Rien de mieux, à mon avis, lorsque des personnalités sont pathologiques que de les laisser s'exprimer, parce qu'alors c'est le plus beau procès qu'on peut leur faire.
Oui, puis ben, il peut y avoir un renforcement autour de ces partisans, de se dire bon, on est verrouillé, on est censuré, etc. Bon, alors en même temps, il y a eu cette intrusion, il y a eu cette affaire au Capitole quand même, quoi. Donc,
oui, mais je crois
que appels.
C'est une... Voilà, mais c'est très clair. Mais vous avez noté, Patrick, que un peu tard, Donald Trump cherche véritablement à calmer le jeu maintenant, parce que la réprobation universelle devant ce scandale, même lui, l'a fait réfléchir. Mais je crois que lorsque il y a des anomalies, des mensonges, des bouleversements, des délires, paradoxalement, les supprimer interdit de les contredire. Et vous avez totalement raison, ça va donner une aura de martyr à Donald Trump qui n'en a pas besoin, et je pense que certains partisans fanatiques vont encore moins le quitter. D'ailleurs, ils ont le droit d'être républicains, mais de ne pas approuver tout de même des extrémités qui ont choqué énormément de gens.
Oui. Éric Revel ?
Oui, bah écoutez, on peut regretter évidemment cette décision. Maintenant, vous savez, je remarque quand même une chose, c'est que Mark Zuckerberg, qui a pris cette décision de supprimer le compte de
Facebook, ouais.
Sur Facebook, ouais. il l'aurait sans doute pas fait au moment du pouvoir établi de Donald Trump. Je veux dire, c'est toujours plus facile, me semble-t-il, de taper sur quelqu'un qui est en train de quitter la scène politique et l'homme le plus puissant du monde, que de le faire en plein milieu de mandat. Maintenant, c'est vrai, Donald Trump a utilisé son compte Twitter de manière virulente, mais on pourra quand même noter que ce n'est pas sur un réseau social qu'il a chauffé à blanc avant ce pitoyable spectacle du Capitole. C'est dans un discours qu'il a prononcé devant la Maison-Blanche. Donc, le réseau social en tant que tel, ce n'est pas ça qui a servi d'outil pour enflammer les esprits et assister aux scènes pitoyables du Capitole. Bon, voilà, maintenant sur le reste, qui est à mon avis dramatique pour Trump, je partage l'idée de du caractère pathologique du personnage, c'est qu'il n'avait quand même pas un mauvais bilan économique, non. Diplomatique. Et voilà un type qui voulait que l'Amérique, la grande Amérique, soit de retour et qui va avoir tout perdu, finalement. Il va avoir perdu, évidemment, le Sénat, la Chambre des représentants, la Maison-Blanche. Il va avoir perdu, peut-être a-t-il encore un peu de raison, peut-être qu'il la perdra, mais en tout cas, il va perdre l'honneur et il va peut-être vivre une humiliation, parce que vous avez vu que beaucoup de gens aux États-Unis, et pas que des démocrates, demandent qu'on active l'amendement 25 pour le destituer, ouais. Alors qu'il reste 13 jours. Donc voilà un type qui rêvait que l'Amérique devienne grande, et il va sortir par la toute petite porte, et puis surtout, il va laisser en miettes son propre parti politique, les Républicains aux États-Unis, qui vont peut-être pas se remettre si vite que ça, non pas de la défaite de leur candidat à la Maison-Blanche,
mais de la fracture. De la fracture, c'est ça ?
Oui, 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 de la fracture, mais surtout, il laisse un parti, son parti, les républicains, en miettes, Donald Trump. Il n'en reste, il va rien en rester. Vous savez, on s'interrogeait quand il a été battu après les résultats, on se disait, mais en fait, le Trumpisme va survivre à Trump. Avec ce qui s'est passé, deux choses l'une, ou bien vous allez avoir une scission à l'intérieur du parti républicain américain. Avec peut-être un parti plus à droite qui va prendre le lead sur les républicains, ou bien ce parti ne s'en remettra pas tout de suite. Voilà.
Et merci.
Donc, c'est ça qu'on peut faire aussi. Peut-être Philippe partage cette idée.
Oui, oui.
Comme bilan, quoi.
Oui, oui, absolument. Merci, merci, Philippe Gerber. On est pris par le temps, Philippe. Vous pouvez rester pour le petit déjeuner jusqu'à 9h15, mon cher Philippe, dans un instant. On va notamment parler aussi de l'ensemble des conséquences sanitaires. Autre sujet, bien sûr. Nous serons avec un restaurateur, Hervé Montoyo, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, vos messages, parce que je sais que ça appelle au 0826-300-300.
Exactement. Restez avec nous, on revient tout de suite après les infos de 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec vous ce matin et vos appels au 0826-300-300.
Oui, absolument. Alors on accueille en fait au standard Sabine de l'Hérault. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Et on va être aussi dans un instant avec Hervé Montoyo, qui est président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, chef du chat qui ne rit pas beaucoup en ce moment, à Rennes. Bonjour Hervé Montoyo.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui,
bonjour.
Oui. On a envie de dire tous nos voeux pour que ça aille mieux, mais c'est difficile.
C'est pas tous nos voeux, c'est plutôt bonne chance.
Bonne chance avec
les mois qui nous arrivent.
Oui, non mais ça c'est vrai. Alors Sabine, déjà vous vouliez réagir aux annonces de Jean Castex hier soir, Sabine.
Oui, oui, les annonces, moi je suis assez perplexe sur les décisions qui sont prises, si tant est qu'il y ait des décisions claires qui soient prises, pour l'instant on est plutôt dans le floux. Je suis très étonnée qu'on essaye de mettre un couvre-feu à 18h parce que je me rends compte que dans les villes, tout le monde fait ses courses le samedi plutôt que dans la semaine où on peut diffuser un petit peu les gens partout. Là on va tous se retrouver le week-end complètement coincés dans les grandes surfaces. Est-ce qu'il vaut mieux se retrouver tous ensemble le samedi ou éparpiller un petit peu en fin de soirée en rentrant chez soi? Là c'est métro boulot dodo, on a même plus envie de rigoler. J'ai des collègues qui tiennent des restaurants. Moi, je mange tous les midis avec mon petit plat dans mon bureau que je vais chercher pour faire travailler les gens. Ce sont des gens qui vivent d'espoir. Tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on leur dit le 20, le 10, le 12, on ouvre. Force est de constater que c'est pas vrai. Moi, je sais pas. Il y a des gens qui sont en colère, qui sont très gris. Il y a plus de contact humain. J'ai 2 collègues qui sont en train de faire du télétravail que j'ai pas vu depuis des mois. Heureusement qu'on a le téléphone. Elles sont, d'ailleurs, je les embrasse. Elles sont en galère avec les enfants, avec la maison, avec tout. Elles sont coincées chez elles.
Moi, comment s'appellent-elles ? On va les saluer au passage. Sabine.
Nicole et Marie-Jo, ce sont 2 collègues.
Nicole, Marie-Jo, voilà, on les salue.
Très fort, bien sûr.
Si elles valent le coup d'être connues, effectivement. Après, moi, je vais vous dire, j'ai tenu, comme je vous avais dit la dernière fois, je me suis occupée d'un centre de vaccination sur Montpellier en 2009.
Oui.
J'étais chargée de l'accueil.
Oui.
On a fait les choses, j'ai rencontré des gens formidables, des pompiers, des médecins. On a fait venir des médecins, même retraités, pour compléter les équipes. On avait tout de préparé.
Oui.
On a tout anticipé. On a reçu les gens dans de bonnes conditions, même si ça n'a pas été tous les jours facile, parce qu'au début, on n'avait personne. Tout d'un coup, on a eu une foule énorme. Mais on a géré, comme on a pu, du mieux qu'on a pu, en recevant les gens, en offrant un petit café, en étant préparé. Là, j'ai l'impression qu'on revit les choses 10 ans après, sans préparation, alors qu'on a quand même des antécédents qui prouvent que lorsqu'on anticipe, ça marche. Mais l'anticipation en France, c'est 0. Et on vit d'espoir. Et on met de l'espoir et on gagne du temps. Des mois passent, des semaines passent, on vit d'espoir qu'on va ouvrir, qu'on n'ouvre pas, qu'on va ouvrir, qu'on n'ouvre pas. Et les stations de ski avec la neige cette année, ça fait 10 ans qu'on attend de la neige maintenant qu'elle y est, les stations sont fermées. Bon, mais voilà, on y est là, quoi. Voilà.
Tout en se disant, on pourrait peut-être ouvrir certaines choses, mais en prenant des précautions, quoi, extrêmes. Le problème, c'est qu'on a l'impression, Sabine, qu'on paye un peu pour tout le monde, pour ceux qui ne respectent pas les choses, quoi, non ?
Alors, peut-être pour une petite masse de gens, mais bon, après, franchement, moi, je vois des gens dans mon village, même un tout petit village, il y a des gens qui ont été atteintes du Covid, une famille entière, notamment à côté de chez moi. Ouais. Ben, ils se sont enfermés 15 jours, leurs courses ont été faites à distance, on a géré les choses. Ouais. On est quand même responsables, ceux qui ne le sont pas, tant pis pour eux. Ouais, et ça, tant pis pour eux s'il leur arrive quelque chose.
Tant pis pour eux, mais c'est tant pis pour nous aussi, bien souvent, parce que c'est à cause aussi des gens qui ne sont pas forcément responsables qu'on ferme tout, quoi, on paralyse tout, quoi, non ?
Les restaurateurs, sont prêts. Quand on voit maintenant, quand on peut aller chercher son plat, les restaurateurs sont prêts. Les pharmacies, quand vous rentrez, c'est prêt.
N'importe quel magasin,
on est tous prêts. Ouais. Ça fait un an qu'on est prêts maintenant. On a assez de recul. On n'est pas à la veille pour le lendemain. Ça fait 12 mois de recul.
Ouais. Non, mais
à
ça,
un moment donné...
C'est vrai. Bah, c'est vrai, Sabine, merci de votre appel. Hein.
C'est une bonne transition
avec Hervé et Montoyo. Hervé, Montoyo, vous avez entendu Sabine à l'instant en disant que vous étiez prêts. Bah oui, vous êtes prêts, mais vous ne voyez rien venir, quoi. Hein.
Ah oui, on est prêt et bien prêt puisqu'on avait travaillé ce protocole et on l'a déjà dit, on est plusieurs élus à le dire. Il n'y a pas eu de cluster dans nos métiers, que ce soit dans tous nos métiers que représente l'UMI et l'hôtellerie de plein air, puisqu'on peut parler tourisme au sens large. Il n'y a pas eu d'études scientifiques qui a été commandée par le ministre de la Santé, et donc maintenant on se retrouve où on a mis des protocoles en place qui nous ont coûté de l'argent. Bien sûr, on l'a fait pour la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients, et donc nous, là, on voit que ça s'enlise. La vaccination prend du retard. Donc, il y a cette gestion de crise qui est mal préparée par le ministre de la Santé, qui nous stigmatise. Nous, ce qu'on demande, c'est la démission du ministre de la Santé pour mauvaise gestion de crise, parce que là, on a un grand nombre de professionnels qui vont se retrouver en faillite, qui vont se retrouver à la rue. On a un PGE qui nous a... Enfin, c'est un prêt qu'on va devoir rembourser. C'est une bombe à retardement.
Ouais.
Et là, les annonces d'hier soir, c'est des annonces à broyer nos métiers du tourisme et on voit pas le bout du tunnel.
Ouais.
Donc à un moment ou à un autre, il faut que le chef de l'État reprenne la main, parce qu'on se demande s'il y a un pilote dans l'avion France. Il y a des déclarations qui sont faites sans arrêt, des fuites.
Vous avez l'impression, c'est ça, Hervé Montoyo, qu'il n'y a pas... Bon, alors il y a le président de la République d'un côté, etc., qui fait ses interventions et tout. Il y a Jean Castex, Olivier Véran, mais il n'y a pas quelqu'un qui dirige vraiment cette bataille sanitaire, quoi.
Tout à fait. Puis en plus, on a l'impression que le virus est différent dans chaque pays, puisqu'il y a des mesures différentes prises dans chaque pays.
Oui.
Nous, dans les Pyrénées-Orientales, on est frontalier avec l'Espagne.
Oui.
Bon, ben l'Espagne décide de fermer ses grandes surfaces. Nous, en France, on les laisse ouvertes. Les bars et les restaurants sont ouverts en Espagne. Nous, on est fermés.
Pas partout en Espagne, là, pour les grands centres commerciaux.
Pas partout en Catalogne.
Ouais.
Et là, les stations de ski, c'est pareil. Nous, sans faire un jeu de mots, ils vont se retrouver avec une année blanche.
Ouais.
Et c'est carrément catastrophique. Ouais, c'est catastrophique.
Vous comptez sur le vaccin, vous, Hervé Montoyo, vous avez confiance, effectivement, pour qu'il y ait une accélération de la vaccination et ensuite d'autres vaccins pour pouvoir, au printemps, quand même, essayer de rouvrir avec plus de sécurité?
Ah oui, il faut que la vaccination, on a confiance, il faut que ça aille très très vite, le plus vite possible. La vaccination a démarré à la vitesse d'une ou deux chevaux, donc il serait temps d'accélérer la vaccination, parce que nous on est très inquiets pour nos métiers du tourisme, et maintenant il va falloir vraiment se mettre autour de la table, que le gouvernement, il nous écoute depuis des mois, mais il nous entend pas.
Ouais.
Donc maintenant il faut prévoir un grand plan de relance tourisme, mais qui soit fait avec les acteurs de la filière tourisme.
Alors,
comble, c'est que Monsieur le Premier ministre avait annoncé que 2021 serait l'année de la gastronomie, et pour l'instant on démarre avec un bouillon pauvre de poulet ou de vermicelle. Donc
parfois il y a des bons bouillons, mais bon, là on prend le bouillon, c'est le cas de le dire.
Là on prend le bouillon.
Oui. Hervé Montoyo, honnêtement, et vous pensez quoi ? Qu'une réouverture possible mi-février, ou alors, comme le disent certains qui sont plus pessimistes, fin mars, ou avril peut-être. Qu'est-ce que vous voudriez ? Le problème, c'est que si jamais ils vous donnent une date là, et que ce n'est pas tenu, ça n'ira pas, quoi. Qu'est-ce que vous voyez, vous ?
Nous, on veut réouvrir le plus vite possible, on est prêts.
on est prêt. Et puis quand on voit tous ces rassemblements, ces fêtes clandestines qu'il y a eu, où il n'y a pas eu de contrôle, où ils sont repartis dans la nature, puis il y a des restaurants en France qui ne sont pas dangereux apparemment. Le restaurant de l'Assemblée nationale reste ouvert, le restaurant du Sénat reste ouvert, des repas à l'Élysée, là le virus ne circule pas, il n'y a aucun danger. Par contre chez nous, apparemment c'est dangereux. Donc, il y a un moment, il faut quand même être sérieux. Nous on est des gens responsables, on représente quand même 10% du PIB, plus tous nos fournisseurs qui sont en souffrance.
Est-ce qu'on pourrait le faire par secteur géographique? C'est ce que me disait le directeur de la station de ski de Peyragudes ce matin. Il disait il y a des endroits où on sait que c'est un petit peu plus sensible, c'est plus compliqué aussi à le faire. Il y a d'autres où ça circule moins, on y arrive mieux. S'adapter.
Oui, on pourrait le faire justement par région et faire commencer à tester par région. Mais ça peut se faire d'ici la fin du mois. Les régions où le virus vraiment circule au plus bas. Et bien, puisque là le virus est reparti, et au départ on nous a stigmatisé, on nous a dit que ça venait de chez nous. Mais sauf que là on est fermé, donc ça vient pas de chez nous. Donc c'est il y a ce test qui pourrait être fait pour voir comment ça fonctionne et ouvrir le plus rapidement possible. Avec ces températures hivernales, le gouvernement ne veut pas nous entendre. On demande à ce que les hôtels avec un restaurant puissent servir leurs clients dans leur salle de restaurant, c'est refusé. Les ouvriers qui travaillent à l'extérieur qui se gèlent, les VRP, toutes ces femmes qui font la route, elle est où la dignité humaine, prendre un repas chaud, se laver les mains, aller aux toilettes, voilà, tout ça c'est
avec un protocole quoi que vous pouvez mettre en place quoi. Non mais ça
le
c'est...
protocole il est déjà en place. Il a fait ses preuves.
Ben oui, en plus.
Il n'y a pas eu de cluster, donc qu'on nous laisse travailler.
Merci, bon courage à vous Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, et on salue au passage aussi tous les patrons de bars, de restos et tous les professionnels dans l'ensemble des secteurs, l'événementiel avec des salons qui sont fermés, le tourisme, enfin bon, il y a énormément de secteurs, et puis en parc cascade il y en a beaucoup d'autres, on les salue. On va parler dans quelques minutes de laïcité, juste avant ça on reviendra quand même sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec quelqu'un. Un économiste qui parle du populisme et néolibéralisme. Pendant quelques minutes, il sera avec nous dans un instant sur Sud Radio et vous pouvez réagir et nous appeler.
Et après, ce sera Bernard Ravet qui sera avec nous, ancien principal de collège et président de la commission nationale Réseau Éducation. A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et juste avant de parler de laïcité et d'éducation nationale avec Bernard Ravet qui était avec nous, on va revenir sur les événements forcément qui ont eu lieu au Capitole aux États-Unis avec David Kaila, qui est économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers et auteur du Populisme et néolibéralisme
aux éditions de Book. Voilà, c'est ça. Bonjour David Kaila.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, à travers justement votre livre, vous avez analysé déjà la montée des populismes de droite, de gauche, etc. Comment vous interprétez ce qui s'est passé au Capitole à Washington ?
Bon, pour moi, c'est un peu la conséquence d'une trumpisme, puisque le trumpisme, c'est une forme de populisme. Alors, plein de formes de populisme, bien sûr, mais ce qui caractérise le populisme, c'est la défiance envers les institutions, envers les élites en général. Et Trump, clairement, il a pris le pouvoir de cette manière-là. Et évidemment, quand on n'a pas confiance dans les institutions, notamment démocratiques, eh bien, on fait ce que Trump a fait, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause le résultat du vote et chercher par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Parce que derrière ce populisme-là, en l'occurrence, beaucoup de populisme, il y a l'idée qu'on a l'exclusivité de la représentation du peuple, c'est-à-dire nous sommes le peuple et les autres ne sont pas le peuple. Et c'est un peu ça qui caractérise les Trumpistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quoi qu'il arrive, ils sont majoritaires, et s'ils ne sont pas majoritaires, c'est un peu ce que disait Trump, c'est forcément qu'il y a des fraudes ou qu'il y a un complot qui est organisé par les progressistes.
Oui, mais
et bien sûr, quand on prend cette logique, finalement, on arrive à ce qui est arrivé.
Oui, d'accord, David Kaila. Mais en même temps, beaucoup de ces gens, et en France, il y a eu d'autres mouvements, les Gilets jaunes et d'autres, qui ne se sentent pas non plus, qui se sentent un peu abandonnés aussi. Mmh. Il y a des failles dans nos démocraties, en fait, aujourd'hui, où on dit que ça marche bien pour ceux qui roulent bien, mais pour les autres, on les laisse un petit peu sur le côté de la route, quoi, aussi. Ça, on peut le comprendre, quoi. C'est ce qui explique aussi cette montée de la colère, non ?
Exactement. Et alors, c'est justement ça qui m'a plus particulièrement intéressé, parce que ce que je viens de dire sur le populisme, c'est connu de la plupart des politistes. Par contre, ce qui est difficile et ce qui est en débat aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, et notamment depuis la crise 2008, on voit apparaître des mouvements populistes dans beaucoup de pays du monde. Et mon sentiment, c'est que, évidemment, cette défiance vis-à-vis des institutions, elle est en grande partie légitime. Et qu'est-ce qui la légitimise ? Bien, en fait, l'impuissance de l'État et de ses représentants et de ses gouvernants à changer les choses, à sortir d'une forme de mondialisation qui crée justement de l'impuissance, hein, qui organise le chômage, la désindustrialisation, tout un ensemble de mots dont nos dirigeants ne cessent de dire qu'ils vont les résoudre, mais en fait, ben, ils ne les résolvent pas. On peut parler aussi des paradis fiscaux, de la finance, etc. Hein, on a bien vu Nicolas Sarkozy dire les paradis fiscaux c'est terminé. On a vu Hollande dire je vais réindustrialiser la France et en finir avec le chômage. Et en fait tout
et
ça.
Et mon ennemi c'est la finance. Ah. Oui.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et tout cela ne fonctionne pas. Et du coup ça crée logiquement et légitimement j'ai envie de dire une défiance des personnes, des gens hein, vis-à-vis à la fois de leurs gouvernants. Mais aussi vis-à-vis des institutions, parce qu'ils voient bien qu'ils ont beau changer les gouvernants, ben en réalité, la situation reste la même. Donc, au bout d'un moment, ils se disent, ben, il y a un problème beaucoup plus profond. Et parfois, on peut aller, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais on peut aller jusqu'aux théories complotistes, parce qu'on finit par se dire, ben, en fait, les intentions de ces gens sont mauvaises et il y a une forme de coalition entre la gauche, la droite, etc.
Oui, oui, ça, c'est ce qui explique c'est toutes ces théories complotistes, quoi, derrière, quoi. En quelque sorte, qui se disent, on n'y arrive pas, donc ça veut dire qu'il y a une entente au plus haut niveau, quoi.
Exactement, c'est ça. Hein. Le site QAnon, hein, la personne qu'on a vue sur toutes les images avec cette espèce de peau de bête sur la tête et ses grandes cornes, oui. Eh bien, c'est un des représentants de ce site complotiste qui pense qu'il y a une élite mondiale pédophile, satanique, etc. Voilà, qui veut contrôler le monde. Bon, évidemment, toutes ces théories sont délirantes et je ne mets pas tous les populistes ou tous les, tous les gilets jaunes dans ce cadre-là. Ouais. Mais on peut aller. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut aller très très loin. Dans l'idée que, en fait, on n'est pas représenté, que les institutions sont dysfonctionnelles, on peut aller du dysfonctionnel à illégitime, de l'illégitime à ennemi, en fait, hein, ennemi. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui se passe hein, aux États-Unis dans une partie, une frange des Trumpistes.
Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse ? On a beaucoup parlé d'associations pour monter les citoyens au plus près, aujourd'hui les associer à des décisions, aux représentants du pouvoir. Et en même temps, quand on le fait, alors on dit après que c'est du gadget, la manière dont c'est fait peut-être aussi pose problème, comme sur la convention climat ou là sur le suivi de la vaccination, David Kaila.
Ben, moi, je ne crois pas trop à ces tentatives d'organiser une forme de démocratie participative. Alors, on a vu la Convention citoyenne, on voit aujourd'hui hein, le comité citoyen sur la stratégie vaccinale, de 35 personnes tirées au sort. Évidemment, tout ça apparaît comme du gadget, et notamment, le problème que j'y vois, c'est qu'en fait, ça valide les théories complotistes. C'est-à-dire, ça valide ou l'idée que nos institutions ne sont pas représentatives, que le Parlement ne sert à rien, finalement, puisqu'on va prendre des citoyens pour faire le rôle du Parlement. Ouais. Et en fait, le souci, c'est qu'on ne s'attaque pas, pour moi, au vrai problème, qui est l'impuissance de l'État, l'impuissance du politique, à réorganiser la société, notamment l'économie, à lutter contre... par exemple, contre la désindustrialisation, qui touche particulièrement la France, hein, c'est mon métier d'économiste qui le dit ici, et mon sentiment, c'est que pour réussir à remettre du pouvoir dans l'État, si je puis dire, et en fait, il faut un peu rompre avec la mondialisation, hein, puisque aujourd'hui, la mondialisation, c'est la mise en concurrence de tous les pays du monde, y compris au sein de l'Union européenne, mais aussi au-delà, hein, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, via les accords de libre-échange, de libre circulation du capital. Et du coup, ben, comme on est en concurrence, on est tous obligés de mettre des normes écologiques parce que ça va pénaliser les entreprises, d'augmenter les salaires parce que ça va pénaliser la compétitivité, etc. Donc, en fait, tous les pays finissent par mener la même politique, quel que soit, si vous voulez, le bord politique de la personne qui gouverne. Oui. Et c'est là qu'on va voir que, quelle que soit la personne qui gouverne, bah finalement, on va avoir les mêmes politiques parce qu'on est dans un contexte où on ne peut pas mettre en œuvre d'autres politiques.
Oui.
Rétablir des frontières économiques.
Oui, et c'est là où, justement, certains se disent, bah, finalement, on n'y arrivera pas parce qu'on est d'accord au plus haut niveau, quels que soient les pays. Et nous, on est victime un peu de cela, quoi, de cette mondialisation. Et quand alors, ce qui est intéressant quand on dit, oui, il faut relancer peut-être des activités, relocaliser des activités. Là, souvent, et pendant des années, on a dit non, mais vous êtes trop protecteur. On vous a accusé de beaucoup de choses quand on a parlé de souveraineté économique, notamment.
C'est ça le problème du néolibéralisme. C'est là que je fais le lien entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est une doctrine de l'action de l'État dans l'économie qui dit, en gros, l'État doit laisser faire le marché, notamment le marché mondial, et surtout ne pas intervenir pour mener des politiques industrielles, pour faire ce qu'on a fait, hein. Airbus, le TGV, la nucléarisation du parc électriques. Tous ces grands projets des années 50, 60, 70, eh bien, sont devenus impossibles parce qu'on a théorisé le fait qu'il ne fallait surtout pas faire ça, qu'il fallait organiser l'économie à l'échelle mondiale, produire dans de nombreux pays qui sont moins coûteux que la France, par exemple. Et donc, évidemment, quand on a pensé cela, l'impuissance de l'État, bah, évidemment, on se retrouve à la fin avec un État impuissant. C'est là qu'arrive la crise démocratique, parce que un État impuissant, c'est un État qui peut pas faire ce que le peuple veut, c'est-à-dire éventuellement parfois changer de politique. Donc voilà, donc moi, ma thèse, c'est ça, c'est que le néolibéralisme, qui est une vieille doctrine issue des années 30, a progressivement émergé et s'est progressivement imposé au cours du XXe siècle, jusqu'à devenir ultra dominant. Et maintenant qu'elle est dominante, ben en fait, on se retrouve un peu démunis pour agir sur, pour en quelque sorte agir sur l'économie et donc répondre aux attentes de la population.
Oui, absolument. Intéressante analyse en prenant de la hauteur donc avec vous. Hein. Merci David Kaila, auteur donc de Populisme et néolibéralisme. C'est aux éditions de Book. C'est à lire et on vous réinvitera pour parler peut-être cette fois-ci justement de ce qu'il faudrait faire, ce que vous avez évoqué dans la dernière partie hein, sur localisation, les activités, comment trouver des emplois, parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est un peu aussi de ça, de certaines populations, dans des, je pense à la ville de Détroit, mais dans beaucoup d'autres, hein, où il n'y avait plus d'activité, on voyait tout arriver de l'étranger, et on se dit, où va-t-on, quoi ? Nous, on nous oublie, on nous laisse complètement, et résultat, les plus de 70 millions de personnes qui étaient plutôt Donald Trump, et pas forcément que Donald Trump, mais contre aussi une politique de l'oubli. Merci. Dans un instant, on poursuit, hein, Cécile.
Oui, on va parler de la laïcité et de l'éducation nationale, avec Bernard Ravet, qui est ancien principal de collège. Il nous dira tout, il est sur le terrain et il remonte des informations, bien entendu. On revient dans un instant. Et vous pouvez appeler hein, 0826 300 300, vous attend au standard.